Je parlerai beaucoup plus peut-être de la situation de réception de secours aujourd'hui que des conditions d'émission de secours en 79. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'une certaine façon le contexte, les lectures qui sont faites, les disputes occasionnées, provoquées par la parution 25 ans après de secours, puisque la publication a eu lieu, il faut s'en souvenir, c'est très important, en octobre 2004. Alors, incontestablement, Naissance de la biopolitique est l'un des cours, je ne sais pas s'il est le plus lu, mais en tout cas le plus contesté, le plus disputé, le plus controversé. C'est devenu un texte polarisant, clivant, entre ceux qui tiennent que Foucault est foncièrement néolibéral et ceux qui pensent que dans ce texte, on trouve des outils, des concepts, des analyses toujours efficaces pour comprendre ce qu'est le néolibéralisme, y compris dans ses développements ultérieurs. Ce cours est plutôt... Les relations à ce cours, les interprétations de ce cours constituent quelque chose comme un champ de bataille. Foucault est habitué, d'une certaine façon, il a été habitué au champ de bataille, il aimait le grondement des batailles, et bien la publication de ce cours, disons, n'a pas dérogé à cette règle qui fait qu'il y a des effets Foucault et des contre-effets Foucault, et c'est un peu de cela dont je voudrais parler. Et il me semble que ce cours doit être donc regardé à la fois de façon interne, bien entendu, j'y viendrai si j'ai le temps à la fin, mais aussi de façon externe. Et il faudrait examiner les relations à ce cours de façon stratégique. C'est que ces interprétations, en effet, relèvent de ce qu'on pourrait appeler avec Foucault des connexions de l'hétérogène. Et c'est un peu de cela donc qui sera question ici. Cette communication fait suite, d'une certaine façon dans mon esprit, à une communication que j'ai faite dans un colloque ici même, à Cerisy, portant sur les socialismes, où j'avais essayé d'expliquer quelles avaient été les formes de l'anti-libéralisme ou de l'anti-néolibéralisme depuis les années 80-90, et où il était justement question... déjà à ce moment-là, de l'effet Foucault sur les interprétations qui ont été données dans le mouvement altermondialiste, dans la gauche dans son ensemble ou dans l'écologie politique. Alors, d'abord, je crois qu'il faudrait rappeler, en particulier pour celles et ceux ici qui ne seraient pas familiers avec la scène intellectuelle et politique française, il convient de se souvenir que, à la différence... de la situation anglaise, américaine, allemande même, et surtout peut-être italienne, Foucault a connu un effacement politique après sa disparition, et en particulier du fait de la non-connaissance publique, à part un petit nombre de gens et de gens très proches de lui ou de gens qui avaient assisté à ses cours, finalement, une relative disparition politique de Foucault, en particulier dans la question, dans le rapport critique au néolibéralisme. On peut évidemment faire quelques exceptions. Ceci doit être relativisé. Il y a bien eu des disciples, il y a bien eu des suites. Je pense par exemple à ce livre de Castel, La gestion des risques, où il y a une reprise très peu de temps finalement après le cours des problématiques de gouvernabilité, de gouvernementalité qui sont très présentes dans ce cours. Mais au fond, rien de tel que ce que l'Angleterre ou les États-Unis ou d'autres pays ont pu connaître. Pas de grande synthèse comme celle qui avait été faite par Mitchell Dean, par exemple. Pas non plus de travaux comme ceux de Colin Gordon ou de Graham Burchell qui avait publié en 91 ce Foucault Effect. Rien de tel en France, et d'une certaine façon, les études de gouvernementalité, hein, comme on dit, finalement ont été assez peu nombreuses pendant les années 80-90. Et puis, au fond, l'apparition du cours en 2004 semble changer les choses assez radicalement en France. Foucault fait retour. Un nouvel effet Foucault survient, après beaucoup d'autres, mais les autres, les précédents, c'était des effets du vivant de Foucault. Là, on a un effet Foucault posthume et retardé, et je crois que c'est important de se rendre compte. Je n'en prends comme indice que cet article d'Éric Eschiman dans le Nouvel Observateur, qui en décembre 2013, par exemple, publie un article qui a eu quelques conséquences d'ailleurs, qui s'appelle « Pourquoi Michel Foucault est partout ?». Et il ajoutait, à la façon très journalistique du Nouvel Obs, il ajoutait « le siècle néolibéral, donc, est foucaldien ». Bon, ce qui n'a fait qu'enflammer certaines passions, comme on peut l'imaginer. Alors, je voudrais donc, dans ce propos, m'intéresser justement aux conditions d'émergence, en quelque sorte, de ce nouvel effet Foucault posthume et retardé. Je voudrais en même temps regarder des grandes lignes, si je puis dire, du contre-effet Foucault, qui n'a pas manqué de survenir également. Et puis, je voudrais évidemment poser la question, si j'en ai le temps, qui est assez décisive, mais je crois que ça fera l'objet de notre discussion. Dans quelle mesure, finalement, il y a des raisons, en dépit de tout, il y a des raisons de penser que ceux qui prétendent que Foucault était néolibéral pouvaient trouver à certains endroits du cours des indices qui leur laissaient penser de cette façon. Non pas que je pense, pour ma part, que Foucault était néolibéral, j'ai plutôt l'impression que non. Mais même s'il était néolibéral convaincu, même s'il y avait des preuves, même s'il y avait des indices forts, rien ne nous empêchera de penser que le cours de 79, comme d'autres textes, sont des textes qui constituent des ressources extrêmement importante pour comprendre ce qu'il en est du néolibéralisme. Dans le colloque de commémoration à la Sorbonne, j'avais souligné à quel point il me semblait très important d'avoir un rapport libre à Foucault, y compris par rapport à des positions politiques qu'il aurait pu avoir. Je dis ça pour marquer, au fond, quelque chose qui est très important, c'est justement un certain climat intellectuel et politique qui fait que lorsqu'on fait utilisation d'un auteur, on est souvent soupçonné d'avoir je ne sais quelle adhésion, voire quelque adhérence, finalement, à l'ensemble de ce que cet auteur a pu penser ou a pu dire ou a pu écrire. Il y a là un climat assez détestable, et on va voir que dans le contre-effet Foucault, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le nouvel effet Foucault, évidemment, cet effet, il se voit à la prolifération des études, des livres, des articles, qui constituent finalement, je dirais, un domaine nouveau pour la France, enfin un domaine en expansion, qui est le domaine de la gouvernementalité. Il suffit de regarder, là aussi, ce sont des indices, mais la liste des ouvrages parus ces 5 ou 6 dernières années qui contiennent le mot, le concept de gouvernement, voire celui de gouvernementalité, pour s'apercevoir de cette expansion assez colossale. On gouverne tout, on gouverne avec toutes sortes d'outils. Je dirais qu'il y a là quelque chose qui est un plus qu'un effet de mode. Je crois qu'il y a, là un vrai programme de travail, en tout cas, où beaucoup de gens, donc trouvant insuffisant les autres types de grilles d'analyse, vont maintenant chercher chez Foucault, donc à retardement, de quoi finalement nourrir des analyses, et des analyses pour l'essentiel, pas toutes, mais pour l'essentiel des analyses critiques. Alors sans doute, parmi tous ces titres, gouvernement par les nombres, par les chiffres, par les statistiques, etc., par les normes, par les standards, par l'évaluation, sans doute devrait-on regarder de près ce qui est substantiellement foucauldien, et ce qui n'est que référence, plus ou moins lointaine à Foucault. Mais donc ça, c'est le premier constat. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que la réception a eu des médiations. Des médiations, ça a d'abord été la réception de ce cours par un certain nombre de gens sympathisants avec le texte, Laurent Jean-Pierre dans Critique, par exemple, l'apparition dans les Prairies ordinaires de deux articles de Wendy Brown ont aidé considérablement à cette diffusion, et puis sans doute je ne m'excepte pas de là-dedans, mais je voudrais pas non plus trop m'y mettre, le travail avec Pierre Dardot, La Nouvelle Raison du Monde, qui a eu un certain écho quand il est paru en 2009. Évidemment, il y a d'autres médiations qu'il faudrait regarder de près. Par exemple, bien la réintroduction de Foucault via, par exemple, les ouvrages de Tony Negri et ses proches, qui a acclimaté d'une certaine façon, lorsque ces livres ont été traduits, je dirais un travail à la fois à partir de Marx et de Foucault, et ceci a sans doute aussi contribué à cette diffusion. Ce que l'on peut observer, en tout cas, c'est évidemment le fait que dans de nombreuses disciplines aujourd'hui, l'histoire, la sociologie politique, la psychanalyse, l'analyse littéraire, les relations internationales, le droit, je pense à Garapon qui était là ici au début, dans de multiples domaines, donc il y a cette référence à la gouvernementalité, même chez des gens chez lesquels on s'y attend moins. Je pense par exemple à mon étonnement quand j'ai vu qu'Alain Desrosières, par exemple, dans ses écrits parus de façon tardive et pour certains posthumes, Alain Desrosières se référait très explicitement donc à Foucault et en particulier à Naissance de la biopolitique. Alors, ce qui change dans le paysage, me semble-t-il, c'est non seulement que la lecture de Foucault permet de voir des aspects du néolibéralisme qui étaient laissés de côté, mais que c'est l'ensemble de la problématique qui est en quelque sorte renversée. En effet, dans l'anti-libéralisme ou l'anti-néolibéralisme de la fin des années 80 et des années 90, dont le grand homme, si je puis dire, le personnage central est sans doute Pierre Bourdieu, au fond, ce qui est au centre, c'est d'abord une idéologie, l'idéologie néolibérale, conçue comme un retour au libéralisme classique, conçue comme un retour à Adam Smith et comme une version radicalisée de la théorie du marché autorégulé, de l'utopie ultra-libérale, telle que pouvait le comprendre quelqu'un comme Serge Halimi, par exemple. Sur cette base se rejoignent de nombreux courants keynésiens, marxistes, donc sociologues divers. Tous, au fond, convergent sur cette idée qu'on a affaire à une représentation du monde et de l'homme, et à un certain nombre de politiques économiques, donc qui sont en rupture avec le fordisme et avec le keynésianisme. Ce qui prévaut dans ces analyses, c'est, je dirais, les aspects négatif, destructeur du néolibéralisme. Dérégulation, destruction des droits sociaux, démantèlement de l'État social, désaffiliation sociale, désubjectivation, désymbolisation, etc. Tout le monde s'y met, je veux dire, sociologue, économiste, bien entendu, et aussi certains courants psychanalytiques qui insistent précisément sur ces effets de destruction du sujet, de destruction de l'ordre symbolique. Ceci est très puissant dans ces années 80, 90 et début 2000. Ce qui se renverse, me semble-t-il, avec Foucault, c'est précisément, comme vous le savez bien, l'aspect positif du pouvoir néolibéral, entre autres, comme les autres formes de pouvoir, finalement, ce qui l'intéresse, c'est quels sont les nouveaux types de rapports qui se mettent en place, les nouveaux types de subjectivité qui s'établissent, les nouvelles relations gouvernant-gouvernées. C'est cet aspect, donc, créateur, producteur, dirions-nous, qui vont l'intéresser et qui vont rencontrer un contexte, une conjoncture tout à fait particulière, qui est le moment où on ne peut plus se contenter d'analyser le néolibéralisme sous ses aspects de destruction, de rétraction de l'État par rapport à l'envahissement du marché. Il s'agit d'analyser des effets que des politiques micro et macro ont sur la vie des individus, sur les relations qu'ils entretiennent et, je dirais, sur leurs affects, sur leur état psychique en général, etc. Converge à cette bien avant d'ailleurs la parution du cours, donc des problématiques qui vont se nouer. Problématiques donc de la souffrance au travail, pour aller très vite, des effets pathogènes du management dans les entreprises et bientôt dans les administrations avec le New Public Management, littérature immense de ce point de vue-là, courants psychanalytiques ou psychiatriques qui font état de nouvelles formes de pathologie qui touchent l'intime. Et j'ajoute que le débat sur l'Europe, dès avant le référendum de 2005, va en quelque sorte constituer un ensemble, une configuration qui va accueillir précisément les analyses de Foucault de façon, disons, d'abord très intéressée et pour certains très, très favorable. Pourquoi l'Europe, évidemment, pourquoi cette question revient ? Eh bien, parce que tout à fait indépendamment de Foucault, tout ça est indépendant de Foucault, c'est un certain terrain de réception que je décris très rapidement, l'Europe, précisément, pose la question de la constitutionnalisation de l'ordre concurrentiel. C'est-à-dire, ce n'était pas totalement nouveau, mais ce qui est au cœur du débat européen dans la campagne du référendum, au moment donc où paraît ce cours, c'est la question de la constitution de la concurrence loyale, non faussée, etc., etc. La vraie concurrence. La concurrence comme épreuve et lieu de véridiction, si je puis dire, avec Foucault. Alors, je voudrais, mais je n'ai pas le temps de montrer ont évolué finalement les conceptions du néolibéralisme avec ça. 95 et encore 2003, le grand mouvement sur les retraites, on n'est pas encore, je dirais, dans ce contexte. Pour l'essentiel, pendant tout ce temps, le néolibéralisme est interprété comme extension de la marchandisation, extension du marché. Et réduction, rétractation, si je puis dire, de l'État. Au début des années 2000, les politiques micro, les techniques, les technologies de pouvoir, les technologies de performance, les techniques d'évaluation, la généralisation de l'évaluation, etc., font que se coagulent finalement des problématiques nouvelles, portées en particulier, et c'est peut-être aussi la nouveauté de la période, et là encore, avant l'apparition du livre, avec le rôle important joué par le champ psy, qui se repolitise, et je pense évidemment aux mobilisations des psychanalystes autour de l'évaluation, qui va jouer un rôle assez considérable dans donc l'intérêt d'abord et puis la mobilisation autour de ces questions-là. Très important, me semble-t-il, de bien saisir donc cette configuration nouvelle, cette introduction des politiques managériale dans l'État, à l'intérieur de l'État, la transformation des services publics avec la LOLF en 2001, avec la RGPP en 2007, pour bien comprendre ce qui va produire donc ce nouvel effet Foucault, ou d'une certaine façon, tout ce qui était management, gouvernance, pilotage, tout ce nouveau lexique qui se diffuse dans le secteur public comme dans le monde privé, peut être facilement renversé, réinterprété, recodé en termes de gouvernementalité. Alors il y aurait beaucoup de choses évidemment à souligner, pas trop le temps, mais des mouvements qui ont marqué leur temps, comme par exemple le mouvement lancé par deux psychanalystes, Stéphane Chédry et Roland Gori, l'appel des appels, ce qui est tout à fait étonnant, y compris jusque dans leur manifeste que j'ai relu. C'est précisément, on est en 2008, l'effet Foucault se lit très très clairement dans ce type de mouvement. De la même façon, dans le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, on observe cette référence à Foucault. Comme si, au fond, le divorce Foucault-psy, si je puis dire, qui s'était quand même creusé du fait des positions de Foucault, comme si cet écart, finalement, se résorbait à l'orée du XXIe siècle. Et je crois que Foucault va produire un effet de connaissance. Un effet de connaissance assez net sur un certain nombre de points. On a évoqué la gouvernementalité, etc. On pourra prendre d'autres points. Mais je n'en retiendrai qu'un. Alors, avec toutes les médiations que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire tous ceux qui ont prolongé Foucault, l'ordolibéralisme. Tout à fait intéressant d'observer que, jusqu'à y compris le débat sur le référendum de 2005, l'ordolibéralisme allemand est ignoré. Avec mon ami Pierre Dardot, on en a eu des effets très très directs quand auditionné par le Parti socialiste, et dans cette commission d'audition, des députés européens étaient représentés, voire surreprésentés. Ces socialistes, responsables socialistes, nous ont dit quelle a été leur surprise d'apprendre à travers notre bouquin, mais lui-même prolongeant Naissance de la biopolitique, combien l'ordolibéralisme était en effet reconnaissable dans ce qu'ils vivaient eux-mêmes, dans leur rapport avec la Commission européenne, dans les textes de l'Union, dans la vie parlementaire, etc. Donc, voilà quelque chose qui mérite d'être appelé. Donc, pour résumer, un contexte politique, intellectuel, une insuffisance, je dirais, des catégories d'analyse dominante dans les années 80 et 90, donc permettent cette réception favorable. Mais évidemment, ces usages de connaissances, ces usages militants du texte de Foucault ne sont pas restés sans réponse. Et très vite, on a vu apparaître donc, je dirais, des réactions. Des réactions, c'est-à-dire au fond des textes réactifs à la pénétration et à la diffusion de cette grille d'analyse. Alors, évidemment, ce qui est assez amusant, si je puis dire, c'est la répétition, je dirais, de ces jeux d'effets et de contre-effets, puisque on a retrouvé, disons, des accusations, des reproches, des critiques, parfois totalement passionnées, beaucoup de hargne et parfois de la haine, une vraie foucaldophobie qui s'exprime dans un certain nombre de textes. Alors, je ne vais pas évidemment les cités, mais ce qui est intéressant, c'est cette espèce de jouissance qu'il y a eu chez beaucoup, a montré que, ou à vouloir montrer que Foucault, qui était présenté comme un artificier, un dynamiteur des pouvoirs, quelqu'un qui ne s'en était jamais laissé compter par les gouvernants, soudain était devenu, en 79, un être bien gentil avec le pouvoir dominant de l'époque, avait admiré l'infléchissement néolibéral à l'époque de Giscard et de Barr, avait eu de la sympathie pour le modèle ordolibéral allemand de la CDU ou de la CSU, avait eu une fascination pour les néolibéraux américains, etc. Et donc, finalement, ce Foucault n'était pas celui qu'on croyait. C'était finalement quelqu'un qui s'était rangé. Rangé comme les autres, si je puis dire. C'est très important de bien comprendre que ce que l'on essaye de faire dans ce contre-effet Foucault, c'est finalement, on essaie de lui faire dire et lui faire vivre, en quelque sorte, a posteriori, un renoncement. On essaie de l'identifier à un renoncement politique, je dirais une sorte d'autocritique de ce qu'il a été précédemment. Donc, d'une certaine façon, c'est une opération de récupération, avec, évidemment, des effets très curieux, puisque il n'y a pas que les foucaldophobes dans l'affaire, il y a aussi des foucaldophiles, pour prendre une opposition que j'invente là, des foucaldophiles qui eux aussi, d'une certaine façon, donnent dans cette idée selon laquelle Foucault aurait fait l'apologie du néolibéralisme. Et donc, il y a des mécanismes d'auto-renforcement circulaire entre les amis de Foucault qui admettent tout à fait cette conversion et les ennemis de Foucault qui donc sont évidemment encouragés dans leurs attaques, je dirais, dans leurs attaques de routine et dans leurs procédés, qui sont souvent des procédés particulièrement douteux sur le plan de la méthode historique. Alors, je ferai pas évidemment une cartographie complète de ce champ, mais il faut quand même, quand je disais que certaines choses se rejouent, certains règlements de compte se reproduisent, évidemment il y a toute une partie des marxistes, et ça c'est aussi un signe des temps, une partie des marxistes, bien entendu pas tous, les marxistes qui se réclament de l'orthodoxie, qui jugent du monde intellectuel et politique depuis leur orthodoxie, et qui, évidemment, voient en Foucault un ennemi irréductible du marxisme et du communisme depuis le début. Je ne vais pas citer, mais je la cite quand même, Isabelle Garot, qui s'est fait une spécialité, finalement, de ce genre d'interprétation à partir de l'orientation sexuelle de Foucault, qui l'amène toute sa vie, finalement, à s'en prendre au communisme, à l'URSS, au marxisme, etc., et à Marx, parce que tout ça, c'est la même chose, bien entendu. Alors, il y a toute cette composante-là qui est rejointe, finalement, par des sociologues plutôt d'obédience bourdieusienne, mais évidemment pas tous, là aussi, il faudrait vraiment distinguer soigneusement, il n'y a plus de groupe ou de corps ou d'organes bourdieusiens, il y a des individus, en effet, qui pensent que le foucaldisme critique d'aujourd'hui est une façon, d'une part, de renforcer la critique de l'État social, j'y reviendrai, et deuxièmement, qui pense que ce foucaldisme oublie purement et simplement la question des inégalités, la question des luttes de classe et de classement, etc. Et donc, ils partent de cette idée qu'il y a des zones aveugles, des choses qui ne sont pas prises en compte par le foucaldisme. Ce qui, en soi, n'est pas forcément, me semble-t-il, faux. Alors, Il me semble qu'il y a trois grands axes de cette critique, il y a de cet contre-effet Foucault. Il y a donc, premièrement, la thèse, si je puis dire, d'un anticommunisme foncier de Foucault. Deuxièmement, il y a l'idée que Foucault serait un anti-étatiste et que, par là même, il a contribué aux attaques, il a contribué idéologiquement aux attaques contre l'État social qui ont eu lieu après. Il a été, d'une certaine façon, un facilitateur, quelqu'un qui était au démarrage des attaques contre l'État social du fait de ses mauvaises fréquentations. Ces mauvaises fréquentations étant essentiellement identifiées comme la deuxième gauche. Rosan Vallon, Edmond Maire, Michel Rocard, etc. Donc le fait de les avoir fréquentés, d'avoir été à telle ou telle réunion de la CFDT, etc., sont des choses qui, finalement, lui sont reprochées. Enfin, troisième argument, l'anti-humanisme. L'anti-humanisme de Foucault, donc la mort de l'homme, c'est le fil rouge, qui finalement expliquerait son ralliement final au néolibéralisme. On retrouve ça chez Zamora, chez Audier, etc. Et quelques remarques incidentes, parce que c'est aussi intéressant de voir comment on lit Foucault, comment on lit ce cours. Une remarque ici ou là, plus ou moins en marge, par exemple, la référence au gommage anthropologique du criminel suffit à dire que, au fond, il y a vraiment cette continuité entre les écrits et ce que Foucault a toujours pensé. Hein. Voilà. Au fond, ce qui est particulièrement, je pense, fort, c'est que ces lectures font que la recherche, cette sorte de dérive qu'on voit dans les cours, sur les formes de pouvoir, d'examen des formes de pouvoir. Au fond, cette longue recherche sur la gouvernementalité n'est plus du tout à inscrire dans un programme de travail qui était l'examen donc des formes de pouvoir, dont il fallait comprendre les ressorts pour pouvoir éventuellement les combattre ou s'en dégager. Non, cette recherche est à inscrire au registre, finalement, de la recherche d'une bonne forme de pouvoir, d'une forme positive de pouvoir entre gouvernant et gouverné, mais positive au sens d'une approbation. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces analyses, encore une fois, sur les méthodes utilisées. Sur la scène intellectuelle française, d'abord, on importe des débats qui proviennent de la scène américaine. C'est quelque chose qui me semble important. Des historiens américains, plusieurs, Christopherson, Behrendt, au fond, ont tendance à interpréter toute la période des années 70, ou surtout la deuxième partie des années 70, comme une mobilisation des intellectuels contre l'union de la gauche. Pour ceux qui ont vécu la période, interpréter les choses ainsi paraît bien curieux. Comme si, au fond, l'union de la gauche, et pas n'importe quoi, la domination du Parti communiste français sur l'union de la gauche avait été le problème essentiel des intellectuels. Et donc, il donne une formidable importance aux nouveaux philosophes. Et je crois que c'est un peu dans cette réécriture, dans cette reconstruction de l'histoire, qu'on essaye de faire apporter, de faire valoir, en quelque sorte, la sympathie de Foucault pour les gouvernants de l'époque. On pourrait trouver, évidemment, de multiples phrases, critiques, etc., de Foucault pour les gouvernants de l'époque, pour Giscard, pour Barre, etc. Giscard, je veux dire, celui qui a fait fonctionner la guillotine, qui a laissé exécuter quelqu'un comme Christian Ranucci. Il est quand même particulièrement, je veux dire, pas dire scandaleux, parce que mais il est particulièrement douteux, si vous voulez, que on puisse lui imputer, je dirais, cette sympathie globale par haine du Parti communiste, comme on essaie de le faire. Mais finalement, je crois que le plus important, c'est peut-être pas là. Le plus important, c'est quelles questions pose-t-on au cours de 79. Au fond, je crois que la plupart de ceux qui justement essayent d'éviter, de contrer finalement la diffusion de Foucault, posent une question qui est une question identitaire. Elle n'est pas nouvelle. Foucault, déjà, et Frédéric Gros nous avait passé un texte où inédit où Foucault, justement, recensait toutes les attaques qui lui avaient été faites. Au fond, la question qui est posée, c'est qui êtes-vous politiquement, Michel Foucault? Quel est d'abord votre dernier mot politique? Parce que ce que l'on fait au cours de 79, c'est de lui demander, en quelque sorte, son testament politique. C'est d'y voir le testament politique de Foucault. Après, bien entendu, il est justement bien entendu que Foucault ne s'occupe plus du tout de politique. C'est ça l'interprétation qui est donnée. 79, c'est la fin de la période politique de Foucault. Et c'est là où se trouverait son testament, plus ou moins crypté. Voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai toujours été. Finalement, un libéral ou un néolibéral, plus ou moins crypté. Le dernier mot politique de Foucault, donc une question identitaire que l'on retrouve aujourd'hui. Je voulais, Éric Fassin m'a indiqué hier que le même Éric Eichmann, dont je parlais tout à l'heure, qui disait... il y a un an et demi, Michel Foucault était partout. Il y a deux jours, le 13 juin, dans le Nouvel Obs, a fait un nouvel article qui s'appelle « Michel Foucault était-il néolibéral ?» Je vous lis juste le chapeau parce que j'ai pas pu lire le reste et n'étant pas abonné au Nouvel Obs, je n'ai vu que le début. Bon, mais je vous lis, le début en lui-même est assez intéressant. En 1979, le penseur se passionne pour les idéologues néolibéraux. Donc se passionne, bien sûr. À l'époque, le sujet n'intéresse guère et ses cours tombent dans l'oubli. Aujourd'hui, leur redécouverte fait polémique. Et là, c'est là où la question dit à peu près tout. A-t-il été subjugué par ce courant ou fut-il le premier à le dénoncer? Subjugation, donc, ou dénonciation, voilà dans quoi on essaye d'enfermer le problème. Éric Eichmann, j'ai vu que la semaine précédente, avait écrit un article « Luther était-il antisémite ?» Voilà, c'est un habitué de ce genre de questions. Voilà, le secret de l'auteur. Bon. Alors, ça pose une question, mais si vous voulez, qui dépasse évidemment le problème de Foucault, c'est la question, c'est évidemment de savoir... quel est le rapport qu'entretient évidemment un chercheur avec son objet? Parce que ce qui est particulièrement problématique évidemment dans ce genre de lecture, c'est qu'on suppose que l'élection d'un objet vaut sympathie pour celui-ci. Il se passionne pour les idéologues néolibéraux, pour reprendre la phrase d'Eichmann, et donc il est sans doute soupçonnable d'avoir une étrange sympathie. Ce que Foucault dit dans le cours... Bon, je n'ai pas encore dit un mot, en fait, c'est que les idéologues néolibéraux, entre guillemets, sont effectivement intéressants, importants, pertinents pour comprendre l'inflexion qui est en train de se produire dans l'art de gouverner. Et c'est ça qui le repère. Et il le fait, évidemment, en partie contre une gauche, assez, ou des intellectuels de gauche, assez aveugles sur le virage qui est en train de s'opérer. Foucault est quelqu'un qui prend au sérieux les annonces faites par Giscard de la Société libérale avancée, qui prend au sérieux les indications assez fragiles, mais qu'il ne manque pas de repérer sur le modèle allemand, qui voit en barre quelqu'un qui était particulièrement au courant d'Hayek et de Zordo libéraux, dans le manuel, le grand manuel d'économie politique de Raymond Barre. C'est l'un des seuls en France à consacrer des pages importantes aux ordolibéraux. Il voit dans tel ou tel texte de Stauffaès, par exemple, une référence à l'économie sociale de marché. Il ne rate rien, ou presque rien, de tous les indices qui montraient finalement que Giscard et Barre infléchissaient ou tentaient d'infléchir finalement le mode de gouvernement. Et donc que la référence au libéralisme était quelque chose à prendre extrêmement au sérieux. Évidemment, Foucault était l'un des seuls à pouvoir le faire depuis sa question lointaine dans le temps, qui était celle des transformations, des arts de gouverner et des effets contre-productifs que les dispositifs de sécurité, producteurs de liberté, entraînaient et amenaient, appelaient des modifications régulières, etc. Bon. Alors, je crois que, pour terminer, parce qu'il faut que, sans doute, laisser la place à la discussion, je crois que ce cours est un commencement. Le problème, c'est que s'il ouvre à autant d'interprétations bizarres, c'est que il y a évidemment des écarts entre le titre et le contenu, donc un vrai problème de savoir quel est le rapport entre la biopolitique et le néolibéralisme, je crois qu'il y répond en partie. Il y a un problème également, c'est de savoir si c'est vraiment un ouvrage sur le néolibéralisme. En réalité, sur 12 leçons, il y en a 5 qui sont consacrées plutôt au libéralisme classique et le reste au néolibéralisme. Le néolibéralisme allemand, c'est-à-dire l'ordolibéralisme, est considéré par Foucault comme beaucoup plus important que le néolibéralisme américain, ce qui rend douteux la réflexion de Ewald à Becker en disant que finalement on trouvait une apologie du néolibéralisme américain dedans, alors qu'en fait il est plutôt une place mineure par rapport à l'ordolibéralisme allemand. Donc multiples problèmes, et le principal, me semble-t-il, c'est de savoir quel rapport il y a entre la gouvernementalité libérale et la gouvernementalité néolibérale. Je pense que là, il y a un vrai sujet de discussion. Et deuxièmement, il y a un vrai problème de savoir comment s'articule le néolibéralisme allemand, la politique de société, la politique de l'ordre concurrentiel et le néolibéralisme américain, identifié pour l'essentiel à Gary Becker. En fait, ce qui constitue le cours et son articulation, je dirais, relativement discrète, c'est là où, me semble-t-il, il manque une 13e leçon. Mais on a essayé de compléter avec Dardo. Ce qui manque, ce cours, ce qui produit ces effets en partie, hein, c'est précisément le lien entre une politique du cadre, identifiée à l'ordolibéralisme, et la redéfinition de l'homo economicus comme capital humain par Gary Becker, Schultz et Gary Becker. C'est ça qui me semble être le plus important. Foucault, loin de donner une version positive, approbatrice, du néolibéralisme américain, en donne plutôt une vision caricaturale, identifiée à du behaviorisme. Ferhat l'a bien indiqué à plusieurs reprises. Une version qui consiste à faire de l'homo economicus quelqu'un qui réagit aux stimuli du marché, aux variables, aux oscillations du marché. Semblant rater par là ce que Foucault essaye, me semble-t-il, d'indiquer lui-même. Ce qu'il essaie d'indiquer lui-même, c'est que la politique du cadre allemande est une politique de concurrence qui met le sujet économique, qui le place en situation d'être obligé de fonctionner comme un entrepreneur, comme une entreprise, comme un gestionnaire de capital. La grande articulation du cours, c'est concurrence, capital humain. Ordre de la concurrence, et capital humain. Et c'est cela qui fait la, me semble-t-il, la puissance analytique et critique du cours. Ce que nous avons appelé avec Pierre Dardot l'entrée dans un nouveau domaine d'étude, qui est l'étude de la subjectivation capitaliste. C'est-à-dire les techniques de performance, la mise en place de techniques de performance liées à l'ordre concurrentiel, à sa construction, qui produisent un sujet étrange qui est amené à se produire lui-même comme capital. Production d'un producteur de capital. Avec donc tous les mécanismes qui poussent donc artificiellement tout individu à anticiper les résultats de ses investissements. Transformer les gens en investisseurs. Investisseurs dans la santé, investisseurs dans l'éducation, investisseurs dans tout ce que vous voulez, dans l'amour, dans la famille, dans le couple, etc. Un investisseur général. Mais cet investisseur général, il est évidemment, comme il le dit très bien, évidemment gouvernable précisément. Et c'est ça l'art néolibéral de gouverner. C'est la production de cet individu producteur de soi, mais en tant que producteur de capital qu'il est, si je puis dire. Dans quelle mesure ceci permet-il de dire qu'il y a quelque sympathie pour le néolibéralisme? Vous avez compris que, finalement, je pense que Foucault évite le jugement de valeur. Ce n'est pas son problème. Mais même si c'était son problème, ça ne serait pas le nôtre. Mais ce n'est vraiment pas son problème. Ce qu'il essaie de voir, c'est que la façon de gouverner l'homo economicus new look, l'homo economicus beckerien, ne peut plus être le même type de gouvernement que le gouvernement libéral. Mais là, se pose toute une série de problèmes que je n'évoque que très rapidement. Foucault semble dire à certains moments que aujourd'hui, cet homme économique nouveau est éminemment gouvernable, précisément par la mésopolitique, qui est la problématique de fond de tout ce cours. Hein, je crois que Ferrat a bien montré hier ce qu'il en était. On ne peut pas comprendre l'essence de la biopolitique sans avoir en tête cette idée de mésopolitique, bien entendu. Mais ce qu'il sous-entend, c'est que l'homme économique ancien style n'était pas gouvernable, ou plutôt qu'il était l'homme du laisser-faire, celui que l'on ne devait, qui on ne devait pas, qu'on ne devait pas toucher en quelque sorte. Ce qui est totalement contradictoire, qui rentre totalement en contradiction avec tout ce qu'il a pu indiquer par ailleurs, et en particulier la place qu'il accorde à Bentham, pour ne citer que lui, c'est-à-dire à l'ensemble des passages où Foucault indique que Bentham est le grand éducateur, et son grand éducateur en matière d'action du pouvoir à distance. Plus que Rousseau, dont il a été question autrefois. C'est Bentham, celui qui lui a appris justement comment gouverner l'homme de l'intérêt, à partir de la définition, ou en tout cas en rapport à la définition de l'homme comme homme guidé par son intérêt. Et c'est très exactement la première phrase de l'introduction au principe de morale et de législation de Bentham. L'homme est gouverné par les plaisirs et les peines, et il est donc gouvernable par les plaisirs et les peines. C'est toute la leçon benthamienne. Alors donc, il y a toute une série de problèmes qui, finalement, devraient, je dirais, faire l'objet de d'analyses sans doute plus fines. Mais je crois que, pour terminer, il faudrait renvoyer, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, ni non plus philosophe, il faudrait renvoyer à la place de Canguilhem dans cette affaire. Je pense que, effectivement, la mésologie, le rapport milieu et action qui a préoccupé, qui trame les analyses de Foucault, cette préoccupation du milieu et de l'action ces préoccupations sont tout à fait centrales dans cette affaire. Ce qui me semble apparaître dans les analyses de Foucault, la chose suivante. C'est la question de la façon dont les individus, en agissant et dans leur pratique, modifient les normes, les transforment, les créent, les réinventent. Guillaume Leblanc oppose à un certain moment son commentaire de Canguilhem, la normativité selon Canguilhem et la normalisation selon Foucault. Et sa thèse est que chez Foucault, on est plutôt enfermé dans la normalisation, alors que chez Canguilhem, les individus ont un rapport beaucoup plus actif et créatif et inventif des normes. Bien, je crois que l'intérêt de Foucault pour le néolibéralisme et pour la subjectivation capitaliste tient un peu à cela. La question, c'est de savoir si le néolibéralisme, qui pense le gouvernement de l'homme comme production de soi, comme capital, n'est pas, d'une certaine façon, une manière, un appui, pour penser une gouvernementalité alternative et une subjectivation alternative. Quand Foucault, dans certains textes, dit « il faut tout recommencer, reprendre tout à zéro », c'est une période précisément qui encadre ce sont des passages, des entretiens, des propos qui encadrent ce cours. Ça ne veut pas dire, selon moi, mais là c'est le débat, ça ne veut pas dire, selon moi, que Foucault adhère à cette problématique de la subjectivation capitaliste, c'est-à-dire la production de soi comme capital. Cela veut dire qu'il faut inventer, et il ne cesse de le dire, il faut mobiliser l'imagination politique à partir de là pour penser des formes d'invention de soi, des formes de production de normes nouvelles à partir de pratiques différentes. Pouvait-il penser autre chose et dire plus dans une période de tassement de la révolution, d'échec, d'impasse de la révolution des années 70? Je ne sais pas, il a cherché, c'était l'autogestion, c'était précisément la deuxième gauche, c'était l'intérêt qu'il apportait aux communautés homosexuelles américaines. Je pense qu'il se dirigeait vers quelque chose, c'est peut-être tout à fait anachronique, et je fais à mon tour un peu, c'est un peu le défaut des lectures rétroactives, je me demande si il ne se dirigeait pas vers quelque chose qui est aujourd'hui absolument central, et qui concerne ce que nous sommes quelques-uns à appeler le commun. Des pratiques, des institutions, des activités du commun. Évidemment, le mot n'y était pas. Mais il me semble que les intérêts qu'il avait l'amenaient, disons, aux lisières de ce nouveau terrain. Voilà. Merci. Mmh. Mmh. Mmh.